Allemand, qui est directeur du Centre scientifique de Monaco, de nous parler, lui, des conséquences des changements climatiques. Et nous allons passer des organismes marins à l'homme.
Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité, non seulement de m'avoir invité, mais également d'avoir invité un biologiste marin parmi tous les médecins que vous êtes. Et ça prouve une ouverture d'esprit qui est très grande, que beaucoup d'autres ne font pas. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Donc, on va partir dans un tout autre domaine que ce qu'on vient de voir. On va parler de l'acidification des océans. Alors, quand on parle de changement climatique, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est en fait le réchauffement. Le réchauffement climatique est réellement la façon la plus visible de ce changement climatique. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler à la presse, tout en grand public, la presse scientifique, les journaux, les livres, tout ça, parle du réchauffement climatique, y compris même la publicité qui s'empare de ce réchauffement climatique pour faire ses publicités. Ce réchauffement climatique, eh bien, il est dû à l'augmentation du gaz carbonique par les activités anthropiques, et peut-être de façon naturelle, mais ça reste beaucoup plus à démontrer, c'est surtout les activités anthropiques qui sont à l'origine de cette augmentation. Ça est un phénomène qui avait été mis en évidence à la fin du 19e siècle par un chimiste suédois qui a eu le prix Nobel, Sven Arrhenius, qui avait imaginé ce réchauffement climatique à partir du CO2, phénomène qui a été réellement mis en évidence au milieu du XXe siècle par Charles Keeling à partir des observations faites à Hawaï. Vraiment une augmentation de ce gaz carbonique à partir de l'ère pré-industrielle. Pourtant, ce CO2 atmosphérique qui va augmenter, eh bien, ne va pas que provoquer un réchauffement climatique, il va également provoquer ce qu'on appelle l'acidification des océans. L'autre problème du CO2, c'est de ça que je vais essayer de vous parler maintenant rapidement. Alors, voilà le plan de ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est que l'acidification des océans? Pourquoi elle est dangereuse? Quelles sont les conséquences biologiques? Est-ce qu'il y a des conséquences pour l'homme? Et que peut-on faire? Deux facettes d'un même problème. Donc, l'augmentation du gaz carbonique, on ne va pas s'étendre là-dessus. Depuis l'ère pré-industrielle, elle a fortement augmenté. On voit cette augmentation exponentielle avec un effet de serre, l'augmentation de la température. On rentre par les détails. En 2100, on prévoit des augmentations de l'ordre de 700 à 1000 ppm suivant les indications du GIEC. On est passé en mai de cette année, on est passé à 400 ppm. Alors qu'on pensait, le précédent rapport du GIEC pensait à atteindre cette valeur dans 2 ans. Que va faire ce CO2? Ce CO2, il va rester dans l'atmosphère, bien sûr, mais il va également se dissoudre dans la mer. Alors ça, c'est une très bonne chose pour nous, puisque ça va diminuer l'effet de serre, mais ça va avoir d'autres conséquences. Vous voyez que c'est quand même des concentrations très importantes qui passent dans la mer, 25 millions de tonnes par jour. Donc ce CO2 va se dissoudre dans la mer. Cette dissolution, c'est de l'équilibre acido-basique classique que vous connaissez, va provoquer la formation de protons, et ces protons vont donc diminuer le pH. Alors, cette diminution de pH est déjà visible, toujours dans les mesures faites à Hawaï, où il y a un observatoire sur le long terme. On voit très nettement donc l'augmentation des gaz carboniques, dont je vous parlais tout à l'heure, dans différents points. Et on voit également parfaitement cette diminution du pH, qui, vous voyez que le pH de la mer diminue de 0,02 unité par décade, de 0,1 unité depuis l'ère pré-industrielle. On voit très nettement que ce pH a été parfaitement stable sur les 20 derniers millions d'années et qu'il est en train de fortement diminuer. Alors, le pH, c'est une mesure logarithmique. Donc, en fait, ça qui veut dire que nous avons, depuis l'ère pré-industrielle, nous avons une augmentation de 30% de la quantité d'acide de proton. Et pour 2100, une augmentation de 150%. Donc, une évolution qui est relativement importante. Alors, pourquoi l'acidification des océans est-elle dangereuse? Premier problème, c'est un problème de chimie. C'est là encore un équilibre acido-basique. Le problème des déséquilibres des carbonates et des rhodomères entre CO2 et le bicarbonate et le carbonate. Donc actuellement, on se trouve ici, on est passé du Ligueux à Viteuil. Donc on a une certaine quantité, concentration de bicarbonate, de carbonate et de CO2 dans les mers. En 2100, eh bien, on va acidifier l'eau, on va passer à autour de 7,8, 7,7. On va donc modifier cet équilibre des carbonates, des bicarbonates. Et vous voyez que les variations vont être relativement importantes, surtout pour ce qui concerne le carbonate, qui va diminuer d'un facteur 2, et le gaz carbonique, qui va augmenter d'un facteur 2. Alors, quelles vont être les conséquences? Le carbonate, c'est un élément essentiel de la formation carbonate de calcium, c'est-à-dire du calcaire, c'est-à-dire en fait de la coquille de tous les organismes. Donc, on va réduire la calcification de façon importante. L'autre problème, c'est un problème de biochimie. Hein. Bien entendu, une protéine a une structure tridimensionnelle qui va être influencée par le milieu externe et donc par le pH. Ce pH va donc provoquer la dénaturation de la protéine, la coagulation, c'est ce qu'on fait quand on rajoute du vinaigre dans l'eau de cuisson des œufs. Donc cette dénaturation de la protéine va modifier la fonction de cette protéine. Et ça, on le voit parfaitement. Vous voyez ici quelques courbes d'évolution là, de dénaturation de protéines en fonction du pH. Vous voyez que le delta pH est très court, c'est souvent de l'ordre de 0,5 unité, donc ça va très très vite. Et également, là, ce pH va réguler un certain nombre d'activités enzymatiques, ici de protéase. Vous voyez encore que c'est très pointu hein, sur le niveau de pH. La synthèse des protéines, beaucoup de fonctions cellulaires vont être régulées par le pH, toujours avec des courbes en cloche très pointues. La prolifération cellulaire, hein, la porteuse de transformation, donc beaucoup de phénomènes qui vont être régulés par ce pH. Alors, quelles sont les conséquences biologiques hein, on vient de voir les mécanismes d'action. Quelles sont les conséquences biologiques au niveau des océans? Alors, d'abord, peut-être deux mots d'explication sur savoir comment en laboratoire, comment on étudie ce phénomène. Donc, en laboratoire, on étudie tout simplement en faisant buller du gaz carbonique ou en mettant de l'acide chlorhydrique à des doses précises dans l'eau de mer. Et puis, ça, c'est ce qu'on fait, nous, au Centre scientifique de Monaco, en perfusant, là, c'est un morceau de corail, on perfuse sous un microscope pour mesurer le pH, donc avec ce qu'on appelle des microcolonies, hein, toujours développées à Monaco, voilà, des microcolonies, ou des mésocosmes, hein, des petits aquariums en milieu fermé, et puis avec beaucoup plus de moyens, Biosphère 2 en Arizona, ou dans un milieu fermé, hein, ils ont reconstitué un récif corallien, ils peuvent faire des mesures sur des volumes de plusieurs dizaines de mètres cubes. Et puis, sur le terrain, on peut également modifier les paramètres physico-chimiques de l'eau de mer. Ici, c'est une mission en Arctique faite dans le cadre du programme ECOCA, programme européen, dans lequel, à partir de ces longs tubes de polypropylène, on peut mettre encore un morceau d'eau de mer, un volume d'eau de mer, et mesurer dans ce volume-là les effets de l'acidification. Et puis, il y a également des sites naturels où il y a des émissions de CO2, et uniquement de CO2, pas d'autres particules. Il y en a, ça c'est celui de Papouasie-Nouvelle-Guinée que nous avons étudié, dans un milieu corallien, il y en a aussi en Méditerranée, sur des milieux tempérés. Alors, que révèlent ces études? Alors, quelques photos pour vous montrer que la cible privilégiée, c'est la calcification des organismes, un phénomène de biomérisation, là aussi, c'est un problème que nous étudions à Monaco. Donc, juste quelques photos pour vous montrer la beauté de ces biominéraux, hein, la difficulté quand même biologique hein, d'arriver à faire ce type de construction. Et ici, un tissu, un squelette de brachiopode, de la laque, hein, ces particules ici font toutes 500 nanomètres d'épaisseur, hein, absolument 500 nanomètres, plus ou moins 1 ou 2 nanomètres, c'est très précis hein, la construction de ces structures biominérales. Des dents de mollusques qui tombent. Une épine de dorsale, toujours de dorsale, des otolithes de poissons, des autochonies humaines, hein, la seule structure en carbonate de calcium que nous avons dans notre corps, des coccolithophores, donc des algues planctoniques, et ici un spicule de corail rouge de Méditerranée, et encore un squelette de corail tropical. Donc, vous voyez, toutes ces structures hein, sont parfaitement dessinées, elles sont sous contrôle biologique. Et donc, mais que va-t-il se passer quand il va y avoir une acidification de l'océan? Ben voilà un résultat d'étude en laboratoire. Alors, on s'aperçoit ici, donc ça c'est la croissance du corail en fonction du pH. Actuellement, nous sommes donc ici, autour de 8 ans, 2100, on sera ici, on a une diminution de la croissance corallienne, donc réduction de la croissance des récifs et fragilisation de ce récif et de perte de l'architecture tridimensionnelle qui abrite tout un écosystème. Alors, est-ce que c'est une réalité, on observe en laboratoire, est-ce que c'est une réalité sur le terrain? Voici une étude faite sur 350 coraux sur la grande barrière de corail en Australie. Donc, une mesure hein, par le taux de croissance en mesurant l'épaisseur des districts de croissance de ces animaux-là. Donc, depuis, il y a une diminution vers 1600, puis c'est à peu près stable. Et si on regarde depuis 1900 ce qui se passe, Eh bien, on assiste ces 20 dernières années, on assiste à une profonde diminution de la classification de ces organismes. Je suis passé beaucoup vite. Si on diminue un peu trop le pH, eh bien, on peut même arriver à la déclassification des squelettes qui ne sont plus protégés par les tissus. Donc, voilà, je vais revenir ici. Voilà un corail mis à pH 7,5, donc prévu en 2200 à peu près. On déclassifie notamment le corail et on crée des structures qui ressemblent un petit peu à des animaux. Et donc, là, on prévoit, les scientifiques prévoient autour de 2150 à peu près, une diminution nette de la classification, c'est-à-dire que la production de carbonate de calcium va diminuer, la dissolution va augmenter, donc on arrive à une déstabilisation complète des structures minérales. Pour provoquer la précipitation des carbonates de calcium, eh bien, c'est un rappel de chimie, c'est juste le produit de la concentration du calcium par le carbonate. Et alors, voilà. Donc, quand on est supérieur à 1 et c'est donc sursaturé, on précipite. Inférieur à 1 et c'est donc sous-saturé, on dissout. Et donc, voilà les prévisions. Vous voyez, quand c'est bleu, c'est très sursaturé, donc il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure où on avance dans le temps, on diminue ces zones bleues et on augmente les zones sous-saturées, principalement dans les milieux polaires, les milieux arctiques, puisque au plus le milieu est froid, au plus le CO2 va se dissoudre. Et donc on va pratiquement arriver à une disparition dans ces zones arctiques des faunes calcifiées. Alors, dans ces zones arctiques, qu'est-ce qu'on a ? On a entre autres ces coraux, les coraux profonds, donc il y a des coraux de surface qui vivent dans les zones tropicales, et puis dans toutes les mers froides, en particulier la mer du Nord. Vous voyez ici la répartition de ces coraux profonds, on va trouver à partir de 300-400 mètres de ces coraux profonds qui jouent un rôle prépondérant pour l'homme, puisque c'est dans ces zones-là que se trouvent les larves de poissons qui servent à l'alimentation. Donc, on voit la distribution de ces coraux profonds actuellement. Donc, la majorité se trouve au-dessus de 1, c'est-à-dire dans une zone qui permet la calcification. En 2100, on va se trouver autour de 1 ou même plus bas, donc une diminution, un arrêt même, de la classification de ces organismes. Alors, si on regarde sur d'autres organismes, comme d'autres organismes calcifiés, comme les huîtres et les moules, eh bien, là aussi, on voit toujours cette diminution en fonction de l'augmentation de gaz carbonique. Ici, il y a des coccolithophores, ceux qui ont formé les falaises d'Etretat, les algues. Bien là aussi, vous voyez qu'on a une déstabilisation des structures organiques de ces algues. Pareil pour les foraminifères. Je vais passer. Théropodes, c'est des petits mollusques qui vivent dans les zones froides. Bien là aussi, les théropodes sont très sensibles. Or, les théropodes sont à la base des chaînes alimentaires, en particulier des grands prédateurs, des saumons, entre autres, et également des grands mammifères, donc qui sont en train actuellement de disparaître, et peut-être toute la chaîne alimentaire. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, c'est des invertébrés, donc qui n'ont pas de milieu intérieur, donc qui sont peut-être beaucoup plus sensibles. Eh bien, pas uniquement. Là, une étude parue par des collègues australiens qui montre que même les poissons, avec leur milieu intérieur, sont sensibles à cette acidification. L'acidification a des valeurs tout à fait normales. Là, c'est la réponse d'un poisson clown à un prédateur. Eh bien, on voit qu'au fur et à mesure, on acidifie le milieu externe. La réponse du poisson au prédateur va être beaucoup plus longue, c'est-à-dire qu'il va devenir beaucoup plus sensible à l'action des prédateurs, donc une action importante écologique. Or, d'autres phénomènes ont été pensés, comme la prolifération de méduses, mais là, il n'y a encore aucune preuve réelle de tout ça. Dans la mer, il y a aussi des algues donc, qui font de la photosynthèse. La photosynthèse va utiliser le CO2. On peut se dire que dans l'avenir, les algues vont être toutes contentes d'avoir plus de CO2. Mais ce n'est pas si simple, parce que ces algues vont se répartir en deux groupes. Certaines vont utiliser le CO2, donc elles vont être favorisées. D'autres vont utiliser plutôt le bicarbonate de l'eau de mer. Alors, si on utilise actuellement, il y a peu de CO2, beaucoup de bicarbonate, donc c'est les algues vertes qui sont favorisées. Mais dans le futur, il y aura plus de CO2, donc les algues qui préfèrent le CO2 vont proliférer. Et donc, ce sont les algues rouges qui vont proliférer. Dans tous les cas, il va y avoir des végétaux, mais on va modifier fortement les écosystèmes. Alors, en fait, les réponses des organismes se sont très spécifiques. Vous voyez un schéma qui représente un certain nombre d'organismes, des crustacés. On s'aperçoit qu'ils semblent bénéficier de cette acidification d'océan. Ils ont l'air d'avoir une croissance plus importante. Donc, peut-être dans le futur, on mangera plus de homards et moins de moules, d'huîtres. Donc, une réponse très variable suivant les organismes. Alors, comme rien n'est simple, et on l'a dit ce matin, et c'est tout de même tout à l'heure, c'est vraiment très important de faire des effets croisés. Souvent, quand on étudie en toxicologie un événement, on étudie seul. En fait, il y a beaucoup d'effets croisés avec d'autres phénomènes qui varient en même temps. Vous voyez ici la réponse d'un corail, ça c'est une expérience faite chez nous, et la réponse d'un corail à l'augmentation du gaz carbonique. Donc si on se place à 25 degrés, il n'y a absolument aucune variation de la densification du corail. Si on augmente de 25 à 28 à CO2 normal, on va avoir une stimulation de la densification par la température. Maintenant, si on fait la même expérience à forte PCO2, on a une diminution très importante, près de plus de 50% de diminution, quand on a en même temps l'augmentation de CO2 et l'augmentation de température, ce qui est prévu dans le siècle à venir. Encore un effet d'autres paramètres, la nourriture va aussi influencer la sensibilité des animaux au CO2. Donc, en fait, les animaux sont nourris, seront beaucoup moins sensibles que les animaux non nourris. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un site en Italie naturellement soumis à du gaz carbonique, à Ischia, à côté du Naples. Eh bien, quand on regarde la faune qui vit naturellement, là, ce n'est pas d'extérieur, c'est du terrain, quand on regarde la faune, donc l'émission de CO2 est ici, et au fur et à mesure, on revient sur des valeurs de pH normal. Mais vous voyez que dans cette zone-là soumise à l'effet de la source de CO2, il n'y a pratiquement plus de faune, sauf quelques algues qui, effectivement, continuent à bénéficier de ce CO2. Donc, on peut aller vers un écosystème riche en algues, mais pauvre en invertébrés. De la même façon, sur les milieux tropicaux, vous voyez réellement le CO2, les bulles de CO2 qui sortent des coraux. Alors certains vont bénéficier de ça, vous voyez que les coraux massifs, quand on diminue le pH, finalement ils se comportent très bien. Par contre, tous les coraux branchus qui forment l'écosystème corallien ont totalement disparu dans des pH relativement bas. Alors quelles sont les conséquences pour l'homme? C'est ce qui vous intéresse principalement. Alors, est-ce que vous allez devoir recommander à vos patients de ne plus se baigner? Est-ce qu'on va voir ça? Non, bien entendu, ce n'est pas du tout vers ça qu'on s'aventure. Mais par contre, et ça a été dit ce matin par le docteur Spirou, la santé humaine, ce n'est pas simplement les pathologies, c'est aussi tout ce qui va avec, et entre autres le bien-être que l'on peut avoir dans un environnement. Et on parle de plus en plus de biens écosystémiques pour donner un prix à tout ce que peut nous donner l'écosystème. Donc, ce bien écosystémique peut se résumer par ce schéma, les fonctions de base, comme la biodiversité, les services de régulation, c'est-à-dire ce que va amener l'écosystème au climat, par exemple, l'approvisionnement en eau douce, en bois, et tout ça, et puis les services culturels, c'est-à-dire le bienfait que l'on peut avoir en se promenant dans un milieu en bonne santé. Eh bien, quand on regarde les effets de l'acidification des océans sur ces biens, on s'aperçoit que beaucoup de biens sont affectés par l'acidification des océans. Alors, juste quelques exemples chiffrés. Quand on étudie les bénéfices issus des récifs coralliens, on évalue tous les bénéfices qui peuvent découler de ça, le tourisme et les pêches qui sont issues de ces récifs coralliens, on s'aperçoit qu'on a un bénéfice d'environ 22 milliards d'euros par an dû à la présence des récifs coralliens. Or, bien quand on regarde la courbe de croissance corallienne prévue dans les années à venir en fonction de l'émission de CO2, on s'aperçoit qu'on va avoir une forte diminution de la croissance. Et donc, les économistes prévoient pour 2100 une perte de 2 à 7 milliards d'euros, rien que par l'effet de l'acidification, ça ne parle pas des autres effets. De la même façon, on peut parler de l'aquaculture, de moules, c'est moules, non, c'est tout, c'est que notre coquillage, moules et huîtres. Donc 235 000 tonnes en France vendues, 12 millions de tonnes produites dans le monde, un bénéfice de 7 milliards d'euros dû à l'aquaculture. Et bien là encore, avec les diminutions de croissance des mollusques, on peut avoir bien sûr une diminution de la production de ces animaux et donc une diminution des revenus tirés de l'aquaculture. Et on s'aperçoit que certains pays, vous voyez que la huître semble beaucoup moins sensible, donc les pays producteurs de moules seront plus facilement impactés. Alors, c'est quelque chose là qui est visible à l'heure actuelle. Là, vous avez des articles issus de journaux américains sur la côte ouest des États-Unis. Vous avez déjà des sources de CO2 qui remontent et qui affectent les aquacultures d'huîtres. Et bien, les aquaculteurs ont déjà dû prendre des mesures en empêchant, en arrêtant l'approvisionnement en eau à certaines heures de la journée, ou même en délocalisant leur production d'ostréiculture dans d'autres sites comme le site d'Hawaï. Donc, perte d'emploi, vous voyez les conséquences pour l'homme. Il y a un article dans Le Monde tout récemment, en novembre, il y a quelques jours, sur ce problème-ci. Alors, vous voyez que ces phénomènes ne vont pas affecter la totalité des pays de la même façon. Certains pays vont être beaucoup plus sensibles, en particulier tous les pays du triangle du Corail. Ça, c'est, je suis à 20 minutes, donc voilà. Donc, ces pays-là, et beaucoup de pays les moins avancés, seront affectés en priorité par ces variations. Alors, là encore, c'est plus ce que j'ai dit là tout à l'heure. Certains pays vont être favorisés. Il va y avoir une augmentation de l'aquaculture s'ils élèvent déjà des animaux peu sensibles à l'acidification. C'est souvent les pays les plus riches. Et puis, la plupart des pays qui sont souvent les plus pauvres vont être fortement défavorisés. On va passer là-dessus. Alors, les pistes pour l'avenir. Alors, tout d'abord, il faut bien voir que la science de l'acidification de l'océan est une science jeune. Vous voyez que ça a réellement commencé à la fin des, enfin, milieu des années 90. Là, c'est le nombre de publications par an. Avec des programmes européens importants, enfin pas que des programmes européens, donc des programmes européens relativement importants qui étudient ces phénomènes-là. Et puis, en 2008, il y a eu une conférence qui s'est tenue à Monaco, où le prince avait tenu à faire une déclaration, qui s'appelle donc, la déclaration de Monaco, qui a été très bien relayée. Et le prince est un très bon ambassadeur, non seulement un chef d'État, mais un très bon ambassadeur de défense de l'environnement. Il a relayé ce message-là dans de nombreuses instances internationales. Et parmi ces messages-là, il y avait une amélioration de la communication entre les scientifiques et les économistes. Parce que c'est vrai qu'aller dire à un décideur politique que le récif corallien va diminuer une croissance de 20%, ce n'est pas très grave pour lui. Maintenant, aller dire que ça va diminuer de 7 milliards d'euros les revenus du pays, ça sera beaucoup plus parlant. Donc, on a mis en place depuis 3 ans des workshops à Monaco qu'on fait tous les 2 ans, donc 2010-2012, le suivant sera l'année prochaine, en associant des économistes et des biologistes pour qu'ils discutent ensemble pour produire des recommandations politiques. Ces workshops sont organisés donc avec le ministère français de l'écologie et la fondation Prince Albert II. Donc, voilà, les recommandations elles sont disponibles, il y en a quelques-unes de disponibles à l'entrée. Alors, juste un mot, là je sors un petit peu de l'acidification de l'océan, mais c'est un domaine qui vous intéresse sûrement encore plus. Le centre scientifique de Monaco, depuis très peu de temps, s'intéresse également à la spécialité. Jusqu'à présent, j'étais uniquement des biologistes marins, et depuis peu de temps, on a ouvert un département de biologie médicale, et ça c'est très bien d'avoir dans le même laboratoire à la fois des biologistes médicaux et des biologistes marins. Et on a, dans le cadre d'une association avec l'Institut Pasteur et encore la Fondation Albert II, on organise des réunions, des workshops sur environnement et santé. Le dernier c'était sur les maladies à vecteurs, le prochain portera sur la pollution atmosphérique. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web. Voilà, on peut voir encore des belles choses comme ça, j'espère qu'on pourra continuer à les voir.